Boker Tov. C'est maintenant Mazal Tov Bezrat Hashem en ce mercredi 3 avril et Kaf Dalet du mois de Adar Bet. Bezrat Hashem Itbarach Vitalech Molaad. Alors, dans notre liste sur les cours, nous avons aujourd'hui, tiens, un thème pour les enfants, pour les aider dans leur émouna, l'amour d'Hashem et la crainte du ciel. Comment faire? C'est un jour que j'ai plus ou moins fait hier, mais bon, on va essayer de rajouter. Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu envoie donc à toute la famille. Donc par Parpi Israël et Mamie Michel, El Harav, pour tous leurs enfants et les petits-enfants, que Kadosh Baruch Hu leur envoie une bonne santé, réussite, bonheur et toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot, et en particulier nos deux petits-enfants, Aaron et Arié, qui ont fait la mitzvah de donner leur cadeau de Pourim. Donc, pour réjouir les autres enfants à Pourim, et merci de les encourager. Vadaï que Kadosh Baruch Hu yivarech otam pour l'éducation aussi, pour la Géoula, le Refouach Lema et tous les blessés, les malades, le retour de tous les otages à la maison, ainsi que Shmirat Chayale, Nouveau Otam, Mikol Sarom, Tsuka, une bonne santé pour Kol Am Israël. Voilà plus ou moins ce qui nous a été demandé. Donc tout a été dit, on commencera Bezrat Hashem, ce Shiur. Une fois de plus, en souhaitant un grand Mazel Tov à Dana et Nechemia, qu'on a eu le mérite de marier hier soir. Le sujet des enfants est un sujet extrêmement compliqué et extrêmement sensible. Car on ne peut souffrir réellement des gens qu'on aime. Quand on est face à une personne qu'on n'aime pas spécialement ou qu'on aime, mais sans plus que cela, une personne étrangère même à notre famille, on n'est pas mariés ensemble, il n'y a pas les liens du sang. Donc, il est beaucoup plus facile, avec un geste ou un retour de talon, de dire au revoir à une situation difficile ou désobligeante. Mais quand il s'agit de ta propre chair, ton frère, ta sœur, tes parents ou tes enfants, cela nous atteint au plus profond de nous, parce qu'une partie de nous vit en lui. Et c'est comme si qu'on nous disait, ton bras est malade. Alors, mon bras, c'est pas tout mon corps. Faut voir le positif, faut voir le bon dans la vie, pas le mauvais. Mais quand ne serait-ce qu'un panari au petit doigt, d'orteil en bas, c'est tout le pied qui boite. Et en fin de compte, c'est un système qui va engendrer que tout ton corps est mal. Et c'est pour ça que, très souvent, on se crée des ulcères, voire pire que ça encore, parce que nous sommes, quand on est atteint par des gens qu'on aime, comme par exemple nos conjoints, quand il y a de moins en moins de complicité, d'amour qui ont lieu, les souffrances sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes, et les blessures restent souvent ouvertes à plaies pendant des mois, voire des années. Pourquoi ? Parce que on en veut à l'autre, et puis c'est très amalgamé par toutes sortes d'ingratitudes, par exemple vis-à-vis des enfants, qui doivent le respect des parents, et puis c'est amalgamé par le fait d'avoir été présent pour eux, tandis qu'ils ne le sont pas pour nous. Ou pire encore, une des plus grandes souffrances qui est à vivre dans cette génération, c'est que c'est toi qui laboure, c'est toi qui sème, c'est toi qui arrose, et c'est un autre qui vient tout récolter. Ce qui fait que c'est très difficile de l'itmoded, de lutter contre une éducation ingrate, surtout à la fin des temps, de relever l'étendard de la Torah par rapport aux années qu'on avait vécues nous-mêmes. Comme j'en ai souvent parlé dans les cours, ce genre de sujet-là, si on les avait dit à l'époque de nos parents, s'ils ont un certain âge, ou grands-parents, c'était impensable. Ce que l'on vit aujourd'hui est impensable par rapport à ce qu'on a vécu, ne serait-ce qu'il y a deux générations en arrière. Où il était beaucoup plus facile de raisonner les enfants, et les enfants savaient qu'ils étaient des enfants, les parents jouaient réellement le rôle des parents, et tout le monde était dans une espèce de hiérarchie conventionnelle, respectable et acceptée de la société. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisque comme vous le savez, quand nos enfants voient qu'un enfant de 5 ans peut décider à l'âge de 5 ans ou 6 ans si c'est une fille ou un garçon, vous avez bien compris que le monde est en train de perdre la tête. Les gens deviennent totalement fous. Ça veut dire qu'on aurait dit ça à un pédiatre il y a ne serait-ce que quelques années en arrière, il t'aurait dit qu'il faut enfermer les parents dans un hôpital psychiatrique. Ce n'est même pas l'enfant qui est condamnable, c'est les parents. Ou plutôt la société, les gouvernements qui perdent complètement la tête et qui emmènent la société à perdre son identité. Ça veut dire que, comme vous le savez tous, quand on a un rôle à jouer en tant qu'homme, c'est que le créateur du monde et que la vie, même si tu ne crois pas en Dieu, eh bien, t'a mené à être ce que tu es, pas pour le transformer à l'opposé. Sinon, si Dieu avait voulu que tu sois une fille, ben, t'aurais été créé fille. Il ne t'aurait pas créé garçon. Donc, tu as quelque chose à faire, quelque chose à vivre en tant qu'entité masculine ou féminine. Mais non, pas du tout. Bien au contraire, je décide, je. Il n'y a plus que du je. Et ce genre mène tout simplement à ce qu'il y ait de moins en moins de mariage, moins en moins de connexion, moins en moins de vie sociale, mais un égoïsme et égocentrique, où en fin de compte, chacun ne pense qu'à lui-même. Et donc, la société qui avait commencé par la Torah, par le mot « les mishpechotam, levet avotam », les mishpechotam veut dire « vos familles », levet avotam, de la maison de vos pères. Ça veut dire qu'on avait des références, on avait des cartes de visite qui permettaient de pouvoir, en fin de compte, nous connecter à bon escient et en toute connaissance de cause. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, vous savez pourquoi le monde va un petit peu à sa perte, de façon générale? Parce que le créateur du monde qui sait tout et qui est le seul à tout savoir, doit remettre les choses à leur place. Et pour vous donner un petit exemple, difficile peut-être à vivre, mais qui est bâtard? Qui est né d'une union permise? Qui a dit que ce Cohen vraiment est Cohen aujourd'hui? Alors il y a des halakhot pour ceux-là qui vont dire que si on a des photos du grand-père qui faisait Birkat Kohanim, dit le Rav Ovadia, que Behemet Shtei Dorot Lefanav, deux générations avant, on a vu que Behemet, est-ce que ton grand-père faisait Birkat Kohanim, est-ce que ton père? Alors on peut, chazaka. Mais dans le tarkles des choses, aux États-Unis par exemple, tu rencontres une personne, qui t'a dit que cette personne-là, Behemet, elle est juive? Moi, j'ai rencontré personnellement, je vous parle de personnel, hein, ok, des copains, des connaissances. Après 30 ans de mariage, je regarde leur ketubas, je vois Copernic. Conversion libérale, mariage libéral, mettant le mec, il étudie avec moi la Torah, ses enfants sont tous au Talmud Torah, c'est-à-dire, et ils se sont mariés là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas juifs tous les deux. Et je lui dis, mais tu sais que tu n'es pas juif? Hein? Tu sais que tu peux manger un jambon beurre cornichon chofchi chochi? Ah, t'as le Yehudi. On les a convertis vraiment très rapidement. C'était la Rabbanou de Jérusalem. Et le plus extraordinaire, c'est qu'ils ont été convertis à 10h du matin. À midi, ils étaient mariés. Donc tous les enfants étaient convertis. Un truc de fou. C'est-à-dire que même des familles, des gens, comme il y a une femme aussi qui m'a dit à Paris que sa mère étant de Livourne, donc très extravagante tunisienne, fausse blonde. C'est-à-dire, c'est vraiment les Tunisiennes qu'on connaît tous. Eh bien, sa mère lui a avoué, quand elle a fêté ses 57 ans, qu'en réalité, la conversion n'était pas valable. Maman, ça veut dire quoi? Mes enfants ne sont pas valables. Ça veut dire quoi? La conversion n'est pas valable. Et on a payé un rabbin, hein, qui n'était pas un rabbin. Je suis parti à la piscine. J'ai dit, c'est bon comme il va. Il m'a dit, c'est bon, tu me dois tant. Je vous raconte une vraie histoire. Hein. Maintenant, les enfants, ils étudient où? À Otsara Torah, en France. Et il montra, baba, les enfants ne sont pas juifs. Et on découvre des choses. Mais qui sait la vérité? Il n'y en a qu'un. Hachem Bohan Vakle. Le seul qui sait la vérité sur qui est quoi, et quoi est qui, c'est le créateur du monde. Ce qui fait que tous ces courts-circuits que nous vivons aujourd'hui, non répertoriés, et c'est pour ça d'ailleurs que je félicite le Beit Din, et entre autres le consistoire, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre sujet, mais au moins pour une chose, pour laquelle Behemet c'est très important, c'est de répertorier qui est marié avec qui. Aux États-Unis, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Tu peux te marier à Los Angeles, tu peux te marier à New York. C'est-à-dire qu'on ne s'entend plus, on se sépare. 3 ans plus tard, la fille rencontre quelqu'un à New York, elle se marie avec lui, hein, tu prends un rabbin. Il n'y a pas d'enquête, je ne peux pas vérifier. Vous êtes divorcé? Oui, je suis divorcé. Non, tu es séparé. Tant que tu n'as pas le guet, tu es marié. Ce qui fait que 3 enfants sont nés de cette union, 3 bâtards. Selon la Torah, qui ne pourront se marier toute leur vie qu'avec des bâtards ou des shfachot, c'est-à-dire des convertis éventuellement. Ouais, éventuellement. Mais quand tu les rencontres, toi, à l'université, un bon juif, bonne famille, Ataluyodéa. Maintenant, quel rapport avec le sujet qui nous a été demandé est cela? Eh bien, c'est très simple. Quand tu rentres dans une atmosphère qui est polluée, tu vas te rendre compte qu'il y a un endroit qui va déjà être anglais, c'est la Yirat Shamaïm. Parce que la crainte du ciel, si on veut l'inculquer à nos enfants, il faut d'abord, Be'ezrat Hashem, commencer par une chose essentielle, c'est rendre l'atmosphère kadosh. Comme c'est marqué dans la fin de cette paracha de Shemini, rendez-vous pur, car vous devez être pur parce que je suis pur. S'il n'y a pas cette connexion, s'il n'y a pas cette cache-route, s'il n'y a pas tout cela, alors il est évident qu'on a déjà incorporé dans l'âme de nos enfants des défections qui l'amèneront à quitter le chemin de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas les forces nécessaires, les armes nécessaires. Prenons un exemple du judaïsme tel que la Torah nous le présente. Nous sommes dans la paracha de cette semaine de Shemini. La semaine prochaine, Tazria. Chazal pose une question dans Mayana Shel Torah, entre autres, mais dans d'autres livres, je l'ai lu. Mayana Shel Shemini ve Tazria. Dans Tazria, on parle de deux sujets. Planteur, on parle celui qui enfante un garçon, donc, et une femme, donc, une fille. Et ensuite, on plonge dans la Touma. Donc, ça jouera avec Metzora. Okay? C'est les deux sujets qu'on a. Dans la paracha de la semaine, de quoi est-ce qu'on nous parle? On parle de trois sujets différents. C'est encore à Korbanot qui Messayem la semaine dernière, la mort de Nadav Aviou et d'un coup, Kashrout. Mais la Kashrout prend quand même, à partir de la sixième montée jusqu'à la fin de la Torah, on est dans la Kashrout, des animaux purs et impurs. Aux sages de nous dire, quel rapport y a-t-il entre le fait de nous apprendre ce qui est cachère de ce qui ne l'est pas, ouais, et le fait d'engendrer un enfant? Réponse de Chachamim, très simple, très bête. Avant d'amener un enfant au monde, si tu veux lui donner de l'amour de la Torah et de la Yirat Shamayim, quand tu l'as conçu cet enfant, est-ce que tu mangeais toi kasher? Parce que ce que tu manges, ton enfant le mange. Quand tu fumes, demande à vos médecins, l'enfant fume. Quand tu te mets en colère, l'enfant n'a pas venu enceinte, hein? On dit qu'une femme enceinte a toujours raison. Parce que l'enfant n'a pas envie de venir dans un monde d'idolâtrie. Car la colère est considérée comme de l'idolâtrie. Ce qui fait que tu ne peux pas demander, comme avait dit d'ailleurs une fois le Chafetz Chaim, on lui a dit, mais Zegil mechanchim et ayeladim. Il lui a dit, mi yom shenolata. Chafetz Chaim, on a posé la question, tu as eu ça, Nachon? À partir de quand j'éduque mon enfant? Il lui dit, du jour où toi-même tu es né. Pourquoi? Parce que les chromosomes, parce que les cellules qui sont en toi vont être transmises en héritage à ton enfant. Ce qui fait, c'est que si tu es de bonne vertu, et on le voit par exemple dans le Sandak. Pourquoi faut prendre un sandak qui est surtout Yéré Shamaïm, qui a de bonnes midotes? Pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est une... Il y a un jeu de mots qui est fait, hein, sans rentrer dans les détails. Alors ça me rappelle la blague d'un rave qui a raconté... c'est un Bressev, il dit, moi j'ai pas peur d'aller au Guéhinam. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que là-bas, Rabbeinu, il a dit, si tu vas au Guéhinam, il te tirera par tes péotes. Alors un citoyen, il lui a dit, moi je m'en fous d'aller au Guéhinam. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'Avram Avinu, Alav HaShalom, il voit celui qui a la Brit Mila, il le sort de là-bas. Alors le Bressev, il a rien compris, il lui a dit, moi je préfère les péotes. Hein. Tov. Abdichuta Shel Aboker. Il y a des gens, ils mettent du temps pour... Mais la chaîne, Bissiata Dishmaya, le domaine de la conception, on voit chez le Sandak, Bémek, que lui aussi va transmettre, et ce que je voulais vous dire, c'est que tout comme l'enfant naît par le biais de la Brit Mila, c'est une renaissance, la Brit Mila, Bayan Mashmini Imol Bessar Orlato, c'est une renaissance. Ce qui fait que le Sandak, c'est un deuxième papa pour l'enfant. C'est très important que cette transmission des Midot passe sur l'enfant. Et donc, quand on veut donner à un enfant une éducation, comme la question qui a été demandée et posée ici, Bezrat Hashem, qui nous concerne tous, eh bien, comment aider les enfants dans leur émouna, l'amour d'Hachem et la crainte du ciel? Ben, comment tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as vu avant d'aller faire l'enfant? Qui tu es toi-même qui l'a engendré? Où est-ce que tu l'as fait grandir? Qui étaient ses fréquentations? Dans quel Talmud Torah tu l'as mis? Parce que si tu parles de crainte du ciel, il faut bien qu'il ait des cours de crainte du ciel. Si tu parles d'Emouna, il faut bien qu'il ait des cours d'Emouna. Si tu veux qu'il se conduise avec amour pour Dieu, il faut bien qu'il ait l'environnement, les fréquentations nécessaires. Mais si tu vends ton enfant avec ton portable à lui mettre des films ou des dessins animés toute la journée, alors sache que son rave, ce sera de Fidek et ce sera Mickey. Et si vous me dites que je suis fanatique, pensez ce que vous voulez. Parce que l'enfant, c'est une cassette vierge. Ce que tu inclus à l'intérieur, ouais, ben, c'est ce qui restera en lui. Alors déjà que d'extérieur, comme c'est marqué d'ailleurs, le roi David dit qu'à la fin des temps, Dieu viendra purifier toute l'atmosphère. Ve'evir tum'a min ha'aretz. Merze ve'evir tum'a. À la fin des temps, le créateur du monde, comme on l'a dit dans Ézéchiel, viendra changer les cœurs de pierre en cœurs de chair et il viendra rendre toute l'atmosphère pure. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir des générations qui naîtront dans la pureté dans laquelle nous devons vivre. Car ce que nous respirons, le mot en hébreu « neshima », c'est les mêmes lettres que le mot « neshama ». Si tu veux une bonne neshama, fais attention là où tu respires. Tout le monde connaît très bien l'histoire de la naissance de Rabbi Ishmael ben Elisha. Alors Rabbi Shmuel ben Elisha, comme d'ailleurs Rabbi lui-même et d'autres, ont été des grands Torah parce que la Gemara a besoin de prendre du temps et nous écrire ligne après ligne comment est-ce qu'ils ont été conçus. Par exemple, la mère de Rabbi Shmuel ben Elisha sortait du mikvé et elle est tombée sur un chien. Le chien est un animal impur, comme vous le savez. Tout celui qui fait grandir un chien à la maison est comme celui qui fait grandir un porc à la maison, dit le Talmud. D'accord ? Donc, elle a vu. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Mes yeux ont absorbé une impureté, même si j'aime personnellement bien les chiens, j'ai pas de problème avec ça. Aval, c'est un animal impur, ok ? Aussi impur que le porc, dit la Gemara. Ok ? Ben, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit mince, elle est retournée. Elle sort à voir un chat, elle est retournée. Elle sort à voir un hamor, elle est retournée. Ensuite, elle voit un Ishmaïli. Et elle retourne. Qu'est-ce qu'elle fait la cinquième fois? Et elle fait trompette. Hein. Elle a fait trompette. Ouais. Elle sort, elle met sa capuche totalement devant elle et ne regarde que là où vont ses pieds. Du mikvé, elle a rejoint son époux. Qui est né? Le Kohen Gadol qui marquera presque le plus l'histoire entre Aaron, Shimon HaTzadik et Rabbi Ishmael Ben Elisha, duquel Dieu, comment il appelle? Mon fils, béni. Ça fait ma chanson qu'on chante le Shabbat. D'accord ? Oi, béni. Comment Dieu appelait cet homme-là ? Béni. Mon fils. Donc, quoi qu'il y en a un qui a les boules depuis 2000 ans, c'est moi. C'est-à-dire, il appelait béni mon fils. C'est-à-dire que les Kohanim et les Juifs appellent Dieu mon père. C'est-à-dire, avinu malkenu. Mais la reine, qui est autre misé, on voit que si on veut, c'est la question comment les aider ? Ben, c'est pas compliqué. Comment tu les as fait ? Donnera déjà la direction vers la cible qu'ils pourront atteindre. Le mad avardomé, quand tu prends une flèche et un arc, si tu veux que ta flèche atteigne la cible, ça va dépendre de qui ? De l'arc, de la flèche ou du tireur ? Du tireur, vous avez tout compris. Ça va dépendre du tireur. Pérouche Adabar, que qui sont les parents ? Vous aurez les enfants. Si Bezrat Hashem, les parents, ils ont beaucoup de Yirat Shamayim, alors comme on l'a lu hier au nom de Rabbi Haïm Ben Attar, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Haïm Ben Attar ? Veit Kadeshtem, Nachon ? Vous vous rendrez pur. Alors vous serez pur. Ben, si on s'est rendu pur, on est pur. Non, Rabbi Haïm ben Attar, il dit, si tu cherches à te rendre pur, je te rendrai pur. Si tu veux être tamé, je te rendrai tamé. Mais tu ne peux pas demander, comprenez-le bien, on ne peut pas demander à quelqu'un, je voudrais des enfants qui soient dans la Torah, mais moi j'y suis pas. Ou je voudrais quelqu'un qui est dans la Torah, hein, mais je ne lui donne pas les forces, les éléments nécessaires pour y arriver. Si tu veux que le combat soit équitable, étant donné que dans une éducation, comme vous le savez tous, jusqu'à 0 et 13 ans et un jour, Shimon, qu'est-ce qu'est l'enfant dans la Gemara ? De 0 jusqu'à 13 ans et un jour, qu'est-ce qu'est l'enfant ? Au niveau du Yetzer Hara. Ok ? Il ne connaît pas. Il est combien de pourcents, Yetzer Hara ? 100% Yetzer Hara. Embo Yetzer Hara. Comme ça dit le Talmud. Miyom lonato ve'ad yom bar mitzvah. Il est lui-même le Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il est innocenté. Pourquoi on ne juge pas ? Parce que Yetzer Hara la pétarovet. Dès que sort l'enfant du ventre de sa mère, il est kulo Yetzer Hara. Mais peu importe. C'est pas important. Ça veut dire quoi ? Il est dans l'innocence. C'est pour ça qu'on ne juge pas. C'est-à-dire que la Torah ne prend même pas en compte que c'est important ou pas important. Elle ignore. Ah, tu parles des autres, pas de l'enfant. Ah, d'accord, ok. Fallait préciser, professeur. Allons. Mais la reine, il est coulé Yetzer Hara. À partir de quand il devient Yetzer Hatov, rentre en lui, 13 ans, genre le jour de sa bar mitzvah, après on dit Mazal Tov, sauf, rentre le Yetzer Hatov. Donc moi, je vais faire un calcul mathématique avec vous. Si mon enfant est 100% Yetzer Hara, de 0 à 13 ans et un jour, pour lui donner le libre arbitre qu'il ait le choix de choisir sa vie, ouais. Combien devrais-je rentrer de Yetzer Hatov ? Autant, c'est-à-dire 100% de Yetzer Hatov. Le rabbi, lui, il a été plus loin que ça. Le rabbi Lubavitch, lui, il dit carrément, le Yetzer Hara, il est tellement fort, parce qu'il a pris de l'avance, il a pris 13 ans et un jour, c'est pas mal, d'avance. Tu as fait une course avec quelqu'un qui prend 13 mètres devant toi, faut le rattraper. Ouais. Il dit, il faut jusqu'à 20 ans que de 100% Torah. Ça, c'est le rabbi. Après 20 ans, tu peux apprendre un métier. Après 20 ans, tu peux sortir. Ce qui fait que si tu veux qu'un enfant, Bémet, il soit rempli d'amour et de crainte du ciel, bah, il faut lui donner l'équité, c'est-à-dire la mesure exacte de son Yetzer Hara. Si tu as 100% de Yetzer Hara, tu dois éduquer ton enfant à 100% Yetzeratov. Et ne pas faire comme tous ces ignorants des mathématiques qui te disent « Faut pas être fanatique, mon fils il fait ce qu'il veut, il choisira son chemin plus tard. » Mais pas du tout. Si tu lui rentres des films, tu lui rentres des réseaux sociaux, tu lui rentres de la bêtise humaine à l'intérieur, tu as fait 140, 150, 160% de Yetzerara. Et quand maintenant vient le Yetzeratov, il a pris tellement d'avance que ce sera très difficile pour lui de le rattraper. Ce qui fait que la racine donnera toujours la force aux fruits et leur puissance par rapport à la profondeur de ce que tu auras arrosé. Plus les racines sont fortes et profondes, et plus l'arbre donnera, Bezrat Hashem, un très bel avenir. Et c'est pour cela que c'est très difficile pour nous de commencer, quand nos enfants ont pris un certain âge, de dire, maintenant, comment on fait pour leur donner de l'éducation? Mais baba, tu viens en retard. On n'éduque pas un enfant à 14 ans. On n'éduque pas un enfant à 15 ans. À 15 ans, il a besoin de casser, de briser les fondations éducatives parce qu'il a besoin de renaître de lui-même. C'est comme un poussin qui ressort de sa coquille. Pourquoi? Parce qu'il a, il est en période de renouvellement hormonal, de principes fondamentaux et de données que les parents n'ont pas. Parce que le monde dans lequel on vit a changé. Ce qui fait que l'enfant, de par lui-même, influencé par la société, avec ses propres problèmes personnels très souvent ignorés des parents, vont mener une situation qui va être, non pas une éducation, mais un jugement. Tu ne sers à rien, tu ne te lèves pas, tu ne pries pas. On vient juste constater, et on pense que c'est de l'éducation, de venir dire à son enfant, tu ne sers à rien à la maison, tu n'aides personne. Est-ce que je viens aider l'enfant ou que je viens dire à l'enfant comment je le vois? La question, c'est de savoir pourquoi il n'aide pas. La question, c'est de savoir pourquoi il ne vient pas à la synagogue. Laisse tomber, de toute façon, lui, il finira goy. C'est pas un jugement que tu peux porter. C'est pourquoi ton enfant ne veut pas venir. La chevet ito. Comprendre quel est le problème de l'enfant par rapport à ce qu'il vit. Mais c'est sûr que si tu regardes James Bond toute la journée et que tu passes ton temps à discuter de choses vaines, d'aller à la synagogue, entendre l'Idgadal, Vidkadash et Merabba, c'est mignon, quoi. Donc on va lui donner quand même des bonbons. Mais à 11 ans, on ne va pas lui donner des bonbons. Ce qui fait qu'il faut habituer nos enfants de façon presque marginale au début, torquedé chez l'olishma, balishma. Au début, ce n'est pas les shem shamaï, mais ça finira par l'être, de l'emmener à la Torah. Et moi, j'ai connu des enfants de rabbanim qui ont été emmenés au Talmud Torah, à la Yeshiva, et après, ils en ont eu marre. Pourquoi? Les rabbins, ils étaient un peu trop durs avec eux. Mais Bassof, ils réétudient le Talmud, Maseret Brachot, ils reviennent à la Torah, ils viennent à la prière le matin. Baruch Hashem, quand les racines sont bonnes, alors tout va bien. Deuxième volet de ce cours. À Emet, tout ce qu'on vient de dire est valable pour toute la génération, sauf la dernière génération. La dernière génération, donc la nôtre, Be'ekveta de Meshicha. Le Talmud dans Maseret Sota, une fois de plus, pour la 18e milliard de fois, on l'a cité. Même tête à Moudbet, ou Sanhedrin 98, pareil, c'est plus ou moins les mêmes simanimes, nous dit que la génération de la fin des temps sera totalement différente. Différente des autres. À un tel point que, comme je le dis aujourd'hui ouvertement et je n'ai pas honte de le répéter, quand vous faites un shidduch avant de regarder si la personne elle est shomer mitzvot, shomer shabbat, shomer taras, d'abord vérifiez que la personne soit normale et ne prenez pas ça pour un acquis. Je vous le dis, ça devient de plus en plus rare. Je n'ai pas honte de le dire et je le répète. Ce n'est pas une blague de trouver des gens normaux. Je parle d'une normalisation éducative, relationnelle, ça devient de plus en plus rare. Parce que dans une génération où la sensibilité est présente chez tout le monde se vexe de tout le monde, tu ne peux plus rien dire, tout le monde veut des discussions franches, mais ils ne les assument pas derrière. Bon, alors on n'a plus rien à se dire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde de ouf. Enfin, moi, personnellement, je peux dire de moi que je suis très péjoratif, je vois tout en noir, tout ce que tu veux, c'est quand même un peu mon métier juste depuis 30 ans, je trouve que le monde va en décadent. Mais j'ai quand même des références à cela. Je ne suis pas le fou unique à penser cela. Puisque on a vu que le prophète Elou dans Melachim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à la fin des temps, bon, vous savez que la Gemara nous dit que les fils se lèveront contre les parents, les calottes. Alors, là, t'as jamais là, les calottes. Avant, c'était la cala, maintenant, c'est ta cala. C'est un jeu de mots pour ceux qui comprennent. Hein? Il y a marqué kala kama bechamota. Ils se lèveront contre les belles-mères. Les divorces, on n'en a jamais autant dans l'histoire, jamais. Jamais autant eu de divorces dans l'histoire. l'échelon de Baït, et pire encore que ça, j'ai fait une expérience la semaine dernière. Encore, j'aime bien comme ça expérimenter mes études. J'ai demandé à 10 personnes la semaine dernière, es-tu vraiment heureux? Ouais, non mais est-ce que tu es heureux? Non. Chouvaï, l'eau. Chouvaï dans le Tarklès, l'eau. Il y en a un qui me regarde de loin et qui me dit, si, moi oui, mais il a oublié que rien qu'il m'a dit, j'en peux plus. Donc, pour vous dire combien les gens ne sont même plus objectifs. Hein? Et tu couches. Tu me regardes, tu me fais, oui, hier, tu m'as envoyé un message, je me dis, oh, poplo. Zelonachon. Vous savez pourquoi c'est impossible d'abord d'être heureux? Pour un premier principe, tant qu'il n'y aura pas de Bet Amigdash, il n'y aura pas de Az Yemale Sichot Pinu. Donc, le bonheur n'existera pas tant qu'il n'y aura pas de Bet Amigdash. Et puis, de dire qu'on est complètement heureux vu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce serait un peu indécent. C'est-à-dire, Abal, quoi qu'il advienne, cette génération-là, eh bien, appartient à quelque chose que j'aimerais vous expliquer, venu de mes études. De plus en plus, dans les familles, il y a des problèmes. De plus en plus. Avant, j'avais 100% de Shalom Bayit. Maintenant, j'ai 50% de Shalom Bayit et de plus en plus de familles qui viennent. Donc, on a besoin de plus de chaises dans le bureau. Hier encore. De plus en plus, les gens ne se parlent plus. Ils ne se visitent plus. Mais c'est impressionnant. Hein. Ce que je vous dis, c'est impressionnant. Que ce soit de Sarcelles à Marseille, que ce soit de Ashdod à Natania, Jérusalem, il y a de plus en plus de chacun chez soi. Et puis c'est tout. Il y a de moins en moins d'empathie, de peine. Et voilà que la Torah nous apprend que Béhémet à la fin des temps, et on va essayer de comprendre pourquoi, est marqué « Lev avot al banim, velev banim al avotam ». Qui va être celui qui sera capable de rapporter le cœur des enfants à ceux du père, et ceux du père à ceux des enfants? Alors il y a plusieurs explications à cela. Qui sont les pères Abraham, Yitzhak, Yaakov? Qui sont les pères Akadosh, Baruch Hu? Aval dans le pshat, au niveau du premier niveau de compréhension, Béhémet, le rôle d'Élu Hanavi, Zachor Letov, ce sera de rapporter les familles à la paix. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous n'y arrivez pas, c'est que ce n'est pas votre rôle. C'est-à-dire que si vous avez tout fait et que cela n'aboutit pas, il ne faut pas s'effrayer. Pourquoi? Parce que ce sera le rôle du prophète Élu Hanavi Zachor Letov qui ramènera le cœur des enfants à ceux du père. Mais avant ça, Yechezkel, il dit, il changera leur cœur de pierre en cœur de chair. Ce qui fait que Béhémet, on va se rendre compte qu'à la fin des temps, il y aura de plus en plus de difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première des règles, c'est un travail qui est très dur. Tout à l'heure, on a cité Blaise Pascal, qui était un grand philosophe, et qui avait dit « Le cœur a ses raisons que la raison ignore. » Ou veut ignorer, je ne sais pas comment le dire exactement, enfin, il y a plusieurs versions. Que ne connaît pas. Ah ben, moi, je préfère ignore. Moi, j'aime bien le mot ignore. Tunisien, on n'aime pas qu'il ne connaît pas. On aime ignore. C'est... Et ce qui est très intéressant, c'est que les amalgames des sentiments reliés à la raison, vont créer un fossé dans nos relations. Ça veut dire qu'on va être émotif, colérique, et malheureusement, ça risque de casser beaucoup de choses. Ce qui fait que, pour pouvoir réussir aujourd'hui une éducation, la première des choses, c'est prendre beaucoup de recul. Beaucoup de recul. Parce que comme on est proche, on se sent responsable de l'éducation de nos enfants. On se sent responsable de ne pas les amener au monde futur. Et puis, le pire, c'est qu'on a perdu le contrôle. C'est-à-dire, on ne sait pas par où tenir l'éducation de nos enfants. Quand ton enfant de 10 ans, il te dit « je fais ce que je veux », vas-y, frappe-moi. Qui te claque la porte au nez, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'assassiner, tu vas le tuer, tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Et si tu as le malheur, en plus de ça, de vouloir l'éduquer comme à l'époque où on s'en prenait une de nos parents, tu as les services sociaux le lendemain, la police, le FBI, le KGB, la CIA, tu as fait un meurtre. Tu n'as même pas le droit. Il y a une enfant là qui s'est plaint à la maîtresse. Sa maman lui crie trop dessus, elle est traumatisée. Elle a juste dit ça. Ils ont reçu la revacha, la police vient de faire une enquête. Oui, j'ai crié sur mon enfant. Oui, où est le problème? Vous avez vu comment il m'a parlé? Vous voulez quoi? Que je vous donne des comptes? Ça devient difficile de vouloir engendrer des enfants de cette génération parce qu'on ne te laisse même pas les éduquer. Attention, on ne parle pas de sauvagerie, de frapper ses enfants, c'est sourd. Attention, on parle d'une éducation normale. Avaloat que Descartes, que tu ne peux pas les éduquer. Ton enfant, il te fait une crise dans la boutique, il veut un cadeau. Il se jette par terre, tu le lèves, et attention comment vous l'avez levé. Oh, oh. Chez nous, on se prenait une bonne torgnole et on disait merci papa et maman. Et on était beaucoup mieux éduqués que cette génération, et je crois que c'est même pas comparable. Shamaïm va arrêter. Sans les larmes, versets, sans l'exemple à donner, sans le chesed, l'harmonie et le shalom dans la maison, le shalom bayit aux yeux des enfants, il est évident que ça déséquilibrera encore plus l'éducation de l'enfant. Quand vos enfants veulent être tout le temps dehors, c'est parce qu'à la maison, ils sont pas bien. C'est pas compliqué. Le nid chaleureux sera toujours la première adresse de celui qui est dehors. Mais si dehors, il veut être encore plus dehors, c'est que avant de dire à ton enfant comment l'éduquer, pose-toi la question, est-ce que toi-même, tu es éduqué? Vous savez, nos enfants sont pas idiots. Quand ils voient la maman qui lui dit, tu dois être religieux, faut être Shomer Shabbat et qu'elle sort en t-shirt comme ça, le gosse, il est mort de rire, quoi. Hein? Quand il y a une famille qui m'a raconté il y a 2 mois de ça, c'est-à-dire c'est une jeune fille qui m'a raconté ça devant la synagogue, elle me dit, elle me fait rire ma mère, elle arrête pas de dire faut faire Torah Mitzvot sur Torah Mitzvot, j'ai entendu dire dans la chambre avec papa, j'en ai marre de ce qui souche, je pouvais l'enlever, je l'enlèverai depuis longtemps. Bon, alors, bah oui, mais encore une fois, l'éducation c'est dogma ishit, c'est toi-même qui dois, comme je l'ai dit hier dans le cours, ne dis pas ce qu'il faut faire, montre le chemin. C'est-à-dire, et tout cela, faut le comprendre, tzadik. Tout ça, faut le comprendre dans cette relation que nous avons aujourd'hui avec nos enfants, c'est que si tu prends pas du recul, tu pries pas plus que toutes les autres générations pour que ton enfant reste dans la Torah, tu lui donnes pas l'environnement dans lequel il puisse grandir dans la Kedusha, tu ne fais pas ce qu'il faut pour lui. Vous savez combien d'enfants religieux aujourd'hui sont des enfants de divorcés? Zekashemehod, c'est très dur pour les enfants. Qu'on le veuille ou pas, un divorce, ça laisse toujours une cicatrice au fond du cœur. En malasot. Ça laissera toujours quelque chose de, un échec, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas pour les enfants, parce qu'on leur a, volé le droit de dire dans la même maison papa et maman. On leur a volé ce droit. Mais l'égocentrisme d'aujourd'hui et l'individualisme ne tient même plus compte de ça. Les enfants sont devenus une monnaie d'échange pour les divorces extraordinaires, un moyen de... Il y a même les gardes alternées maintenant. C'est 50-50, mais tu payes la pension quand même. Hein. Non, quitter être pigeon, c'est jusqu'au bout. Hein. C'est des trucs de malade ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des trucs de malade. À un tel point que beaucoup d'hommes ne veulent plus se marier à cause de ça. Ça veut dire que les gens vivent dans le péché parce que tu deviens fou. Tu deviens fou. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Mais la reine et tsarino arabe, tant que les choses se passeront comme ça, cela demandera beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de larmes dans les prières, beaucoup plus de tzedaka, beaucoup plus de chesed, et parler avec Hachem qu'il change le cœur de nos enfants à avoir de la crainte du ciel. Il faut demander à celui qui détient les clés de tous nos problèmes, Bezrat Hashem, que les choses se réalisent. Je vous avais raconté il y a 2 ans de cela une histoire que j'avais lue ici sur une grand-mère, Beka Mamdina, en 1948, qui avait prié pour que son fils soit un Ben Torah. Et son fils est devenu Chiloni Gamour. Donc elle pleurait, elle faisait tous les jours le livre des Tehilim, les 150 Tehilim, avec des larmes. Et elle est morte, elle est partie de ce monde, et son fils ne faisait même pas Kippour. Mais, le petit-fils est devenu Dayan à Bnei Brak, un très grand ami Tracham, et c'est lui qui a raconté cette histoire en disant, mon père était un homme au plus loin de la Torah, c'était même pas un juif de Kippour, rare, hein, juif de Kippour. Mais ses prières n'ont pas atteint son fils, mais elles ont atteint le petit-fils. Ce qui fait que même si des fois on prie et on se demande pourquoi on fait les choses, si ça vient pas ici, ça viendra plus tard. Parce que la prière, c'est comme une balle. Tu peux l'avancer au point qu'elle disparaisse de ton horizon, elle finira tôt ou tard par retomber. Mais la reine, faisons ce que nous avons à faire et laissons-le, Dieu faire le reste. Dernier volet, avec ça je vous laisserai. Lama, pourquoi ça nous arrive? Bémet, pourquoi ça nous arrive? Alors moi, j'ai de la chance. Je jure pourquoi. La réponse que je vais vous donner n'est pas de moi. Mon épouse, que Dieu la bénisse, ce Shabbat, a rêvé de Rabbi Moshe Ederi Zatzal. Ken, Rabbi Moshe Ederi, d'ailleurs, duquel cette synagogue porte son nom, ici à Tel Aviv, ou El Moshe. Et mon épouse fait un rêve vers l'aurore, et elle rêve de Rabbi Moshe Ederi Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, qui vient dans une énorme lumière lui donner une réponse à une question que j'avais posée. J'ai posé des questions et j'en avais parlé avec mon épouse et elle me dit, regarde, j'ai Rabbi Moshe Ederi. Et la réponse, la voici. Alors, elle vient du ciel, qu'est-ce qu'elle vaut? J'en sais rien, vous savez qu'on ne retire pas des halakhot ni de réponses venues des rêves. Hein. Les rêves, sont vrais ou sont faux. Mais cette réponse-là, par contre, correspond aussi à mes études. Donc, je me permets de l'enseigner avec vous. Pourquoi Bémet, c'est si difficile pour nous? Lama. Ma'inyanazé. Eh bien, la réponse est simple. Étant donné que la Géoula est très proche, et que le relationnel que nous avons avec Dieu est un relationnel individualiste et intéressé, Dieu fera subir à la dernière génération la relation avec nos enfants que nous avons avec lui. Ce qui fait qu'il a dit à ma femme, je reprends exactement les mots qu'il a dit, tu diras à Rabbi David qu'il arrête de poser des questions au ciel. Comme ça, bidouk. Ki kach nigzar min hashamayim. Car comme ça, c'est dans le ciel. Tout est justice et tout est parfait. Zata tshuva que Rabbi Moshe a donné. En disant qu'en réalité, tzach lizrom, avance. Altitakev, avance. Avance. Altitakev. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Quand tu as des enfants qui ne vont pas sur le chemin de la Torah, quand il y a des sirsuchim, des problématiques au niveau relationnel, même si elles sont très vitrinées par des bonjours et au revoir, mais le problème n'est pas résolu. Parce que vous savez que pour résoudre un problème, il faut d'abord les faillesses, reconnaître, ensuite consoler, comme le dit le Talmud, il rote tchouva. C'est pas comme ça, bon, elle dit on arrête. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des cicatrices, il y a des douleurs qui ont lieu, il faut les soigner, il faut les penser. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on voit que le langage est sincère et qu'il y a de vraies excuses, alors tu peux améliorer cette relation sur de bonnes bases, parce qu'il faut toujours laisser le passé au passé, mais à la condition où tu es passé dessus. De la reine qui est à Bezrat Hashem Itbarach, il y a des comptes qui sont réglés, et pour vivre la Géoula, le Créateur du monde nous fera un tout petit clin d'œil en disant, moi ça fait juste de 2000 ans, que je subis vos « je te parle pas, bon j'ai la batmina, il est trop bien la Torah mon fils. Oh, allô, Shabbat, Kashrut, Nida, allô, vous m'utilisez pourquoi? Pour les cimetières, pour les Brit Milot, pour les bar mitzvot, pour les mariages. C'est qui le valet, c'est qui le roi ici? Dieu, aide-moi pour la réfoua Shlema. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour la Torah? Pose-toi les bonnes questions. Et Rabbi Moshe Deril est venu dire à ma femme, dans les rêves, que dans son rêve, qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu veut nous faire un peu goûter de ce qu'il subit depuis 2000 ans. Goûter un petit peu ce que moi, en tant que père du peuple d'Israël, vous me faites avec vos assimilations, votre vulgarité, votre haine entre vous. Comment c'est quand un père, il voit ses enfants qui ne se parlent pas les uns avec les autres? Ça fait mal, hein? Moi, ça fait 2000 ans que je vous attends. Ça fait 2000 ans que je n'ai pas de maison. Et la reine, la question qui est posée ici, dans cette génération, elle est un petit peu bancale. Parce qu'il y a une volonté du ciel de nous faire un peu payer les choses avant de réunir toute la famille au sein du Beth Amikdash pour reconstituer Goy Echad Ba'aret, une nation sur sa terre, mais une nation qui sera Bezrat Hashem, enfin, et ce pour l'éternité, cesser de nous faire du mal. Vous savez, avant, je finirai avec cette phrase, qui est une phrase qui m'avait été dite par quelqu'un du Kollel à Jérusalem, là-bas 54 Avrechim, et j'ai posé la question à ce garçon qui est un Tamit Racham, et je lui ai dit, mais pourquoi tu es dans la Torah, toi? Il m'a dit, moi, personnellement, ça ferait longtemps que j'aurais quitté la Torah, je voulais apprendre un métier, me casser, vivre aux États-Unis, machin. Bon, c'est un garçon qui, à l'époque, il avait plus de 55 ans, à Or Eliyahu. Et je lui ai posé la question. Tu peux rire, toi. Posez la question. Vous savez ce qu'il m'a répondu? En plus, tu connais cette personne. C'est ce qu'il m'a répondu. Il est propre. David le propre. Rabbeinu, très fort en Torah. Ben, c'est à lui que j'ai posé la question. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, je ne veux pas décevoir mes parents. Mes parents ont tout donné pour la Torah. Et je ne veux pas les décevoir. Vous êtes Pérouche d'abord. Vous savez, encore une petite histoire ou là je vous laisse? Allez, une dernière pour la fin. Allez, pour la route. Pour Shimon Pachter Ayaka. J'aimerais photo. J'adore ta coupe de cheveux. Alors reprenez-moi si je me trompe, mais moi j'ai lu avec lui. Le problème c'est que j'ai lu avec un autre rave, mais on parle du Marsha. On est en Tchécoslovaquie. Écoutez bien cette très belle histoire, très connue, Bezrat Hashem. Mais je l'ai lu avec un autre rave aussi. Alors peut-être qu'il y en a deux. I don't really know. En plein hiver, en Tchécoslovaquie, il fait moins 8000. Hein. Le Marsha avait l'habitude de prier toujours au Netzach Hama. Il étudiait toute la nuit. Vous savez qu'il y en a deux qui avaient une conduite un peu espèce. Et Rashi, qui avait de très longues péotes qu'il attachait à chaque mur pour étudier la Torah, pour ne pas s'endormir, car il ne voulait pas goûter à la nuit. Donc, D'ailleurs, j'ai vu sa chaise moi-même au musée de la découverte à Tel Aviv. Il y a la chaise de Rashi et tu vois les deux anneaux. J'avais été les voir il y a 35 ans. Et Rashi s'attachait les péotes pour que quand il dorme, aïe, ça le réveille. Le deuxième qui avait ça, c'est les forbans. Non. C'est... Quoi? Dans mon lit? C'est le marcha. Le marcha, on dit de lui qu'il avait une blorite comme ça et qu'il l'attachait au clou. Il avait un clou en haut et il attachait cette... la blorite, comment on dit une blorite? Une...
Mèche.
Ouais, la mèche. Pour ne pas dormir la nuit. Comme ça, dès qu'il s'endormait, aïe, aïe, il se relève. Toi, tu peux pas le faire, Shimon. Aucune chance. Avec la barbe. Et donc, comme ça, je vous fais vivre cette histoire à toute vitesse. Le marcha se lève et effectivement, il met son pied dehors, il fait moins 8000. Et à ce moment-là, il est tellement fatigué, il est tellement âgé qu'il hésite. Son élève l'attend dehors avec le carrosse pour l'emmener à la synagogue. Et puis d'un coup, il voit le marcha qui se met à pleurer. Il rentre dans le carrosse. Il va à la prière et il pleure. Alors l'élève qui voulait apprendre la Torah de Moreno à marcha, de Kodesh Kodashim, il lui a demandé, pourquoi tu pleures? Vodarav, c'est le la mata bokeh baboker. Il dit, parce que j'ai hésité à aller à la synagogue parce qu'il faisait froid. Alors il a posé la question, moi aussi ce matin j'ai hésité, il fait moins 8000. C'est pas... Il faut faire attention à sa santé, en plus vous êtes âgé. Donc il faut faire attention à Tishmur Anafshotechem. Il lui a dit oui, mais le problème c'est qu'une histoire m'est venue à la tête. Et quand j'ai revu cette histoire, je m'en suis voulu à l'intérieur. Écoutez bien cette histoire. Le père du marcha, il était poseur de cheminée. Il était poseur de cheminée. Et donc, bon, c'est pas comme aujourd'hui on fait les toiles, les cheminées, tout ça. Quoi qu'aujourd'hui même les cheminées, ça n'existe pratiquement plus. Mais, dans ces pays-là à l'époque, il y a 3 siècles et demi en arrière, ça existait pratiquement sur tous les toits de maison. Car on se réchauffait grâce à cela, sinon on mourrait de froid. Et mon père me payait un rave toutes les semaines, pas au mois, toutes les semaines pour que je sois un grand en Torah. Et malheureusement, un peu comme ton papa, malheureusement, il y a eu une pénurie de briques. Ce qui fait que mon père n'a pas pu travailler. Et comme il n'a pas pu travailler, le rave qui s'occupait de moi, raconte le marcha à son élève, il a dit à mon père, si tu ne me fais pas, j'ai un autre élève qui est prêt à payer. Donc si tu veux que je continue, il faut que tu me payes à l'avance. Il mène kema, chen Torah, c'est pas que je ne veux pas enseigner la Torah, c'est comment moi je mange, j'ai des enfants. Et j'ai vu mon père, alors que moi j'étais à la yeshiva, avec ce rave qui m'enseignait particulièrement la Torah, pour trouver des solutions, un richissime qui venait acheter une maison lui a dit, je voudrais bien une maison avec une belle cheminée en briques, la plus haute. Et comme il n'avait plus de briques, qu'est-ce qu'a fait mon père? Il est monté sur son toit, il a pris sa propre cheminée, il a défait brique par brique, et il est parti la vendre pour payer le rave pour m'apprendre la Torah. Et pendant que moi j'étais en yeshiva près du feu en train d'apprendre la Torah avec le rave, qui était payé par mon père et ma mère à la maison, ils gelaient de froid. Et quand je suis rentré les voir un Shabbat, j'aurais mis, il fait tellement froid, c'est un congélateur, il fait tellement froid à l'intérieur. Il lui a dit, pendant que nous, on subit le froid, toi tu es dans la chaleur de la Torah, c'est peu payé pour avoir un fils dans la Torah. Il lui a dit avec des larmes, c'est cette image qui m'est montée à l'esprit en disant, oui, il fait trop froid, est-ce que j'y vais ou pas? Quand je me suis rappelé que mes parents avaient fait une grande Messirut Nefesh pour que je sois un grand Torah, comment puis-je les décevoir? Je pense que la Messirut Nefesh dans cette génération, c'est la réponse à toutes les questions. Comment puis-je aujourd'hui donner de la Emouna? Comment puis-je donner de la crainte du ciel et l'amour d'Hachem à nos enfants? Réponse, cela dépendra beaucoup de ta Messirut Nefesh. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.